Salut à tous et bienvenue dans Archéociné, épisode 35. Archéociné, je vous le rappelle, c'est un podcast qui parle des films qui ont eu leur succès à leur époque. Donc, des films de plus de 20 ans. Et avec nous, pour en parler, on a Blood et Benoît. Comment ça va les gars?
Ça va bien, salut tout le monde.
Salut. Écoute, ça va très bien.
Petit salut timide.
Non, c'est salut du week-end, quoi. C'est le salut un peu la tête dans... Voilà.
Ah, mais d'accord. Bon, bah écoutez, on est heureux que vous nous rejoigniez ce soir. Et on va attaquer un petit peu dans la continuité de l'épisode de la dernière fois de Chucky. Parce qu'on en avait parlé ensemble et c'est vrai que... on aime bien ce film-là. Et bah allez, je vais lancer l'intro. Bon, c'est sûr que encore, il est difficile de le reconnaître au premier abord, mais bon, je balance quand même la sauce. Allez.
Bien sûr, il est mort. La dose était trop forte.
Il est mort à cause de vous?
Non, au contraire. Grâce à moi, il revit.
Je ne sais pas si vous l'avez tous reconnu, mais il s'agit de Reanimator, un film de 1985, réalisé par Stuart Gordon, et c'est une adaptation libre de la nouvelle qu'avait écrit Lovecraft en 1922. La nouvelle s'appelle Herbert West, Reanimator. Voilà, donc on va faire ce petit film-là, un petit film d'horreur. Et dans l'ombre de Lovecraft, qui est adapté donc de ce roman, Stuart Gordon a fait un long métrage, donc, et il y a eu trois œuvres, deux suites, on verra un peu plus tard. Et puis non, aussi, c'est un réalisateur de films d'horreur. Mais ça, Benoît va nous en parler tout à l'heure, mieux que moi. Et voilà, donc c'est encore une intro un peu chelou des films des années 80, où on commençait toujours un petit peu avec une scène avant d'avoir le générique. Donc c'est vrai que c'est pas évident de retrouver tout de suite ce que c'est comme film. J'ai laissé un petit peu la musique parce que je la trouve un peu sympa.
C'est vrai. Et
ouais, elle est sympa.
Ouais, bon, je sais pas.
Ouais, bon, après, elle dure 4 minutes, mais si vous voulez l'avoir en intégrale, on l'aura à la fin du podcast. Mais j'avais coupé un peu avant. Mais elle est sympatoche. Et ouais, c'est un bon petit film. On va vous en dire plus là-dessus. Et bah, écoute, Benoît, sans plus tarder, je te laisse la parole parce que je crois que tu vas avoir pas mal de choses à nous dire là-dessus.
Sur notre ami Gordon.
Bah ouais.
Oui, parce que c'est un réalisateur un peu spécial. Il a un petit côté... comment il s'appelle hein, ce... Ah, ça y est, j'ai oublié. Le réalisateur de Mad Max, George Miller.
Ah oui, ouais.
Parce que bah, il s'est inscrit dans un style très particulier. Hein, l'horreur et l'horreur très... j'allais dire grand guignol. Mais surtout... en plus, enfin, ça va être drôle de savoir comment il en est arrivé là. Et à côté de ça, donc il est connu notamment pour ses adaptations de Lovecraft, façon très très horreur et au plus, enfin la patte de Gordon dans les films, enfin dans les adaptations de Lovecraft, c'est que, enfin la grosse différence, enfin la même, ouais, la différence majeure, c'est qu'il intégrait aussi une part de sensualité, là oui. Où Lovecraft lui était vraiment très prude. Là non, il hésite pas. Il n'hésite pas, Stephen Gordon. Ça se voit un peu moins dans le premier Rain Amateur, mais dans les autres films, c'est un peu plus poussé. Notamment le film qui arrivera l'année d'après.
Dans le premier, tu vois des scènes où ils sont nus. Ils sont nus.
Oui, et puis il y a presque une scène de gueule, ah, ouais. Quasiment. Hein.
Pardon, j'ai pas compris.
Il y a une scène de viol, carrément. Quoi. Enfin, c'est...
avec un zombie. C'est un peu dégueu d'ailleurs, mais bon.
Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'à la base, il n'était pas forcément prévu qu'il fasse du film d'horreur, mais un jour on lui a dit, écoute, en fait, faire un film d'horreur, c'est le meilleur moyen de lever des fonds, parce que, t'as même pas besoin qu'il soit bon, quoi. Genre, faire un film d'horreur, c'est bon, t'auras tête une, quoi. Et avant ça, avant de faire du cinéma, il a été un peu connu pour du théâtre. Mais alors, attention, on parle de théâtre, genre, quand il sortait de l'université de Wisconsin, il s'est fait arrêter pour avoir monté une pièce de théâtre. Ah ouais, mais là, tu vas me dire, mais quelle pièce de théâtre? Eh ben, c'était une version politique, sous acide et blindée de nullité de Peter Pan.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà, donc c'était un truc qui est fait pour l'organique. C'était une compagnie qu'il a montée avec sa femme Caroline Pardy, l'organique Theater Company, qu'il a fondée en 69. Mais avant ça, il avait aussi. Comment dire, il avait à la fin des années 60, hein, donc dans cette période-là. Donc, il a monté une pièce qui s'intitulait The Game Show, où les acteurs devaient insulter, humilier et s'en prendre physiquement au public.
D'accord.
Et le public était lui-même poussé à être acteur dans cette pièce interactive, finissant invariablement en émeute générale.
Ouais.
Donc,
si il se met sur la gueule, ouais.
Voilà. Stewart Gordon, c'est ça, hein, c'est du théâtre très 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 spécial, très très violent. Ses premiers films, donc, Réanimateur et toutes les autres adaptations de Lovecraft, connues pour être très gore et très très sexualisé. Et ben, c'est aussi l'un des papas d'une autre saga. Très connu des enfants des années 90, qui est Chérie, j'ai rétréci les gosses.
Ah oui, là, on est à l'autre bout, là, du...
C'est ça, il a écrit le scénario, il a produit aussi les itérations, Et il a fait tout ça en binôme avec son producteur dont on parlera tout à l'heure, qui est son, un peu son alter ego, celui qui D'accord. poursuit son œuvre et qui ne l'a pas quitté depuis du début jusqu'à sa mort en 2022, c'est ça ? Il est mort l'année dernière.
Ouais, 2020. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce que c'est un peu comme si, par exemple, je faisais de la musique hard rock, metal, thrash metal, heavy metal, tout ça. Et puis d'un seul coup, je commençais à faire des opéras ou comment ça s'appelle ? Ah, les...
Moi, je jouais du clavecin. Du clavecin.
Non. Les Starmania, tout ça, là.
Ah oui. Les comédies musicales.
Ouais, voilà.
Ah, fais gaffe, parce qu'un jour, sinon, il va falloir qu'on parle de Ripomen. Donc.
Non, mais voilà, ça fait vraiment ce fossé-là d'extrême, quoi, entre...
Ouais, la semaine prochaine, je suis au Hellfest, et demain, tu peux venir. Ah bah non, parce que demain, je chante à l'opéra.
Et après tout, pourquoi pas ? C'est possible, hein ?
Ouais, pourquoi pas ? Après, il en fout de tout pour... Ouais.
Voilà. Tu dis, moi, je connais une comédie musicale, gore. Ça existe.
Hein. Ah ouais.
Eh oui. Bah, de toute façon, le théâtre, là, il était prévu une comédie musicale réanimateur, hein, d'ailleurs. Ah ouais ? Je crois même qu'elle a existé. Hein.
Ah, je sais pas.
Oui, il existe une comédie musicale réanimateur, oui. Bon. Voilà.
À la fin, tu sors du spectacle couvert de sang.
C'est ça.
Ouais, ou du liquide vert. Ou les deux.
Et donc, après... Qu'est-ce qu'il a fait après sa pièce de théâtre qu'il avait monté avec sa femme?
Voilà, du coup, après, c'était réanimateur. Et ensuite, il a enchaîné l'année d'après avec l'un de mes films préférés, From Beyond, donc traduit en français au port de l'au-delà. J'ai eu du mal à le retrouver, ce film, au début. J'ai retrouvé il y a 5-6 ans. Mais pendant des années, j'ai essayé juste d'expliquer. Mais oui, c'est la jaquette avec un mec avec un espèce de sorpoc qui sort de la tête, là.
Ouais,
et personne ne savait de quoi je parlais. C'est dingue, hein.
Mais en fait, je crois qu'ils ne sont pas encore réédités en version Blu-ray. Ils doivent toujours exister en DVD. Donc, je ne sais pas ce que font les éditeurs.
C'est chaud. Hein, tous les la filmo de Stewart Gordon à voir, c'est un peu compliqué des fois. Moi, il me semble que je l'avais vu. L'année dernière, From Beyond, je l'avais revu sur Shadows. Mm-hmm. Donc, une plateforme dédiée aux films d'horreur. Donc c'est une petite plateforme française, hein, mais du coup c'est quand même extrêmement chaud à voir aujourd'hui comme ça, quoi. Mais c'est rigolo parce que au port de l'au-delà, t'as beaucoup de ressorts qui t'y tiennent de réanimateurs, notamment le fait que le film démarre très vite. Genre c'est vrai que chez Stewart Gordon, t'as pas trop le temps de t'ennuyer, quoi. Enfin, t'es vite fait plongé dans le film et au début. Ça te choque un petit peu parce que t'as l'impression qu'il manque un bout là, en fait. Je sais pas, c'est bizarre.
Là, ça commence bizarre.
Et Franck Bayon, on a le même casting que Réanimateur. Hein,
oui, il avait ses acteurs fétiches.
Voilà, avec Jeffrey Combe en fait. Et Barbara Crampton.
Ouais.
Donc voilà, ça c'est vraiment un film à voir. Ensuite, dans les notables, qui n'est pas une adaptation de Lovecraft, mais qui a conduit à ce qu'on passe de Chucky à Stewart Gordon, c'est Dolls, donc les poupées, est dans le style des films de poupées dans le haut du panier.
Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est top ça.
Donc c'est vraiment à noter. Il a en tout et pour tout réalisé 4 adaptations de Lovecraft, dont Dagon's, adapté de Cauchemar d'Ismuth, et Dreams in the Witch House, qui est donc un épisode de Master of Horror, si vous avez vu la série. C'est une série d'anthologie où il y a eu pas mal de réalisateurs de films d'horreur qui sont passés faire un épisode, en fait. Et chaque épisode est donc...
Ouais, ça faisait un peu comme les trucs des contes de la crypte.
C'est ça. Et d'ailleurs, on a retrouvé Barbara Crampton dans la nouvelle version de Crip Show. Donc, pas des contes de la crypte, mais de Crip Show.
Ouais. Exact.
Que j'ai pas encore vu, hein, mais qui passe en plus sur Alta 9, hein, donc c'est facile à choper.
Ouais, c'est rediffusé en ce moment, ouais.
Ouais. Du coup, Les Contes de la Crypte, nouvelle version, et Crip Show. Les deux sont disponibles, donc c'est à voir aussi, mais j'ai pas encore vu. Et donc, Master of Horror, il y a des épisodes, c'est des pépites. Il y en a deux, trois, c'est un petit peu plus compliqué. Mais il y avait, comment ça s'appelle l'épisode de... De Dario Argento. Attends. Issa, c'est avec une sirène. Jennifer.
Ok.
Bah, une sirène. On s'entend. Disons, ouais. Voilà. Disons que c'est un monstre qui séduit les gens. Hein. C'est pas quelqu'un avec une queue, c'est pas Ryan. Hein. C'est vraiment un épisode à voir. L'épisode de Carpenter. Parce que ça a beaucoup plus de sens dans la filmo de Carpenter, d'ailleurs. La fin absolue du monde. Cet épisode-là, qui parle, en fait, d'un secret qu'il y aurait sur les films, ou en fait, sur les bobines, les réalisateurs de films d'horreur seraient obligés de mettre une sorte de symbole pour pas que les spectateurs soient trop choqués, tu vois. Et en fait, il y a tout un truc sur l'esprit du mal dessus. Enfin bref, c'est vraiment un épisode à voir. Mais ça ressemble vachement à... Enfin, vachement. C'est assez imprégné de l'entre-deux de la folie.
Ah ouais.
Voilà, donc aussi un chef-d'œuvre à voir.
Ça aussi, ouais, c'est bien. Ça, l'entre-deux de la folie, c'est avec... celui qui joue aussi dans...
Sam Neill.
Comment ?
Sam Neill.
Ouais, il joue aussi dans... on peut le voir dans...
Jurassic Park.
De Jurassic Park. Ouais. Et ça, l'entre-deux de la folie, ouais, c'est un petit truc à voir, super. J'avais fait une soirée, tiens, le jour de Halloween, je l'avais projeté, ça. Et tout le monde était en trip à la fin.
Avez-vous lu ce token?
En plus, c'était Halloween et tout ça. Franchement, tout le monde était... tout le monde est ressorti de là-dedans et commençait à flipper quand ils entendaient des bruits dans la maison et tout. Oh, et puis t'as le folklore aussi qui vient là-dedans, mais bon, c'est franchement ce film-là aussi, vous voulez avoir.
Ouais, pour ça, je sais même pas pourquoi j'ai confondu Craven et Carpenter sur ce coup-là, mais je pense que c'est parce que je pensais à Freddy, Sort de la nuit, tu vois. Mais en repensant à l'épisode, je me dis c'est marrant, ça ressemble trop à du Hantis pour être du Craven, tu vois, et du coup...
Ouais, voilà. Ouais, mais il y en a tellement après.
Ouais, mais il y a beaucoup de monde qui sont passés sur Master of Horror, et, dont des acteurs aussi, et parce qu'il y a eu notre fameux Freddy hein, qui est passé sur un épisode qui n'était pas le meilleur. Mais voilà, mais en tout cas, si vous voyez Master of Horror, vous voyez au moins l'épisode Jennifer de Dario Argento, c'est une pépite. Bon voilà, donc ça c'était pour les participations de ces acteurs dans les trucs d'horreur bien connus. Donc voilà, il a pas fait non plus énormément de films, on a une dizaine à son actif, comme on disait, donc 4 adaptations de Lovecraft, hein, ce qui est quand même, il y a peut-être une quinzaine de films, ce qui fait au moins un bon tiers, voire un bon quart, enfin un bon tiers ou un bon quart de sa filmo, ce qui n'est pas négligeable, et tout le reste est plus ou moins imprégné de sa patte. Comme on disait, c'est si rigolo, c'est que, voilà, enfin à la base... C'était surtout un bon moyen de récupérer, enfin de faire des films pas trop chers et machin, mais c'est devenu sa marque et si bien plus. En même temps, quand on voyait ce qu'il faisait au théâtre, c'était de toute façon une évidence qu'il allait y arriver, quoi.
Ouais.
Donc voilà, enfin il a toujours été connu pour ça, hein, pour les outrances et le grand guignol. Ce qui est rigolo, c'est que son acteur Jeffrey Combs lui ne met pas du tout. Les films d'horreur, mais ça on reviendra après sur tout ça. Donc voilà, oui, donc c'était dans une interview à Pass Magazine hein, qu'il avait expliqué ce truc qu'on lui avait suggéré de faire des films d'horreur. Sinon, quoi dire de plus? Ce qu'il a un peu poussé à Réanimateur, c'est qu'un jour, il se plaint à une femme que tout le monde fait des films de vampires, tu vois. Mmh. Et il se dit, vaudrait mieux plutôt taper un peu dans les déclinaisons de Frankenstein, tu vois. Frankenstein, d'ailleurs, on dit plutôt. Le truc était trop trouvé. Le Herbert West réanimateur, qui est clairement inspiré de l'œuvre de Marie Shelley, l'a poussé à adapter du coup plutôt réanimateur que Frankenstein. Hein. Parce que c'était plus simple. Enfin, c'était. Je sais pas.
Un nouveau, quoi, si on peut dire.
Ouais, voilà, un truc qui n'a pas forcément été fait. Et en plus, fait partie de ces films qui ont ces trucs que t'as que au cinéma ou en série, surtout dans les séries. C'est ce genre de personnage principal qui est en vrai un immonde connard.
Non, oui.
Mais que tout le monde suit quand même, tu sais pas vraiment pourquoi.
C'est vrai que le mec, tu fais putain, mais.
Parce que franchement, enfin, on va venir après le film, mais.
Le, ouais, c'est un anti-héros, quoi.
Bah, c'est même pas. Mais en plus, je sais même pas des fois pourquoi on dit anti-héros. Il a rien d'un héros, le mec. C'est juste un sombre connard, quoi. Enfin, c'est tout.
C'est vrai. C'est vrai que c'est l'acteur principal, mais des fois, t'as envie de l'emplâtrer, quoi.
Ah, c'est clair.
Quand il arrive chez les autres, ouais, ils se disent merde, putain, c'est lui qui vient venir vivre chez nous.
Ouais, c'est le mec qui fait un peu ouais, c'est moi que Vlad, je sais tout, je suis le plus fort, toi ta gueule, t'es. Voilà quoi.
Ah, mais j'avais oublié le passage, hein, mais sur ces trucs de Sinoche, il a aussi arrosé le public d'hémoglobine. Donc, je sais pas si t'imagines, d'accord. Tu viens avec ton petit costard blanc au cinéma.
Ouais,
et puis si tu sais pas. Et tu ressors, voilà. Psst. Ah, ok, super. C'était.
T'es content.
Ouais, tu ressors, t'es carie, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Donc, voilà. Ce qu'on peut dire, hein, vite fait, sur notre ami Stewart Gordon, qui est l'une des pierres angulaires souvent oubliées du cinéma d'horreur.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Et ce qui est étrange quand même, c'est que j'ai un peu recherché partout, mais j'ai rien trouvé de flagrant sur des hommages ou des petites apparitions de ces personnages ou des références à Stewart Gordon dans d'autres œuvres. Et j'en ai pas trouvé, je suis persuadé qu'il y en a plein.
Ouais.
Mais ils doivent être juste pas recensés, quoi. Mais de toute façon, rien que le personnage d'Herbert, je suis sûr que tu cherches un petit peu. Enfin, tu vas tomber sur des séries ou des films, tu fais « Oh, lui, il me rappelle quelqu'un, tu vois. »
Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, ouais, ça peut. Effectivement.
Et voilà, c'est pour moi, c'est dommage, c'est un peu de parent pauvre. On sait pas à lui qu'on pense en premier quand on parle de cinéma d'horreur.
Ouais, bah tiens, tu parles d'Herbert, je te propose de passer un petit extrait justement où on l'entend et on sent bien que le mec, il est... Ouais, et t'as envie de lui foutre ton poing. Allez, on l'écoute tout de suite.
Excusez-moi, Adam, je ne voulais pas vous effrayer.
C'est pas grave, monsieur Alcey, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Vous voulez dire quelqu'un d'autre?
Dan, je vous présente Herbert West, il va faire sa troisième année avec vous. Il faisait de la recherche à la faculté de Zurich avec le docteur Gruber qui vient juste de mourir. Monsieur West, voici Daniel Ken, un des plus jeunes espoirs de notre faculté et un des meilleurs élèves en médecine.
Quel genre de recherche?
La mort.
Ah, Karl.
Non, ce n'est pas souvent qu'on vous voit par ici.
Et c'est vrai, je faisais faire à notre nouvel élève, M. Herbert West, le tour de notre école. Voilà qui devrait vous intéresser, Karl. M. West travaillait avec Gruber. Ah, M. West, je vous présente notre éminent spécialiste du cerveau et une sommité médicale, le Dr. Karl Hill.
Je suis au courant, Dr. Hill, de vos travaux. Et votre thèse sur la localisation cervicale de la volonté est très intéressante. Bien qu'avant vous, le docteur Gruber, dès 1970, soit arrivé aux mêmes conclusions. Un plagiat, en quelque sorte. Quant à vouloir limiter à 12 minutes la vie du cerveau après la mort, permettez-moi de...
De 6 à 12 minutes, monsieur...
West, Herbert West. Admettez, docteur Hill, que votre thèse sur la mort du cerveau est dépassée.
Karl, je ne sais pas si je vous ai informé, mais le comité se réunit mardi pour les subventions. Et Meg et moi serons heureux de vous avoir à dîner.
Mais cela sera avec le plus grand plaisir. J'ai hâte de vous retrouver parmi nos élèves, monsieur West.
Ouais, déjà donc, tu sens que à la première rencontre, le mec, il est un peu hautain, quoi. Il dédaigne un peu même les profs, etc., quoi, donc... ça met un peu le personnage, tu commences un peu à cibler quoi dès les premières minutes du film quoi.
Surtout qu'on a bien vu qu'il était un petit peu à l'origine de la mort de son fameux professeur. Hein.
Ouais. Dès l'intro, ouais, c'est ça qu'on a. Bah, on n'a pas les images, quoi. Mais c'était ça l'intro. Dès que le film commence, on entend des cris, la porte s'ouvre. On voit West qui est là avec, je sais plus s'il a une seringue dans la main, il me semble, ouais. Son professeur, il commence à avoir les yeux qui gonflent, qui s'exorbitent, qui explosent. Tout le monde se retrouve aspergé de sang. Et il avait cru faire une bonne expérience, mais ça a carrément mal tourné, quoi. Donc, et ça se passait en Suisse. Et donc, après, il se retrouve, dans l'université de... j'ai oublié le nom, aux États-Unis. Ouais. Voilà, mais il prend tout le monde pour de la merde, en fait. C'est lui qui a trouvé le truc. Il se croit au-dessus de tout le monde, quoi. C'est l'arriviste.
C'est ça. Et du coup, de toute façon, la galerie de personnages, il y a deux personnages, je vais dire, qui sont clean, et ceux qui mangent le plus, finalement.
Ouais, bah c'est Daniel et Megan, non?
Ouais.
Ouais, bah oui. Mais après Daniel dans le côté un peu cucu, qu'est-ce qui se passe? Je perds tous mes moyens. Ouais, ça aussi c'est un côté c'est un côté énervant ça. De quoi Blood?
L'autre docteur, lui il est jaloux.
Ouais. Ouais, aussi t'as celui qui est t'as le Carl Hill qui est amoureux secrètement de Megan alors que Daniel c'est lui qui se tape Megan. Bref, Megan, c'est la fille de l'autre toubib, le boss de l'université. Enfin, bref. Voilà, quoi. Non, mais faut... Et ben justement, si on parle des acteurs, Blood, tu vas nous dire qui joue dans ce film et qui l'interprète.
Nous avons donc Jeffrey Combs qui joue le rôle de Herbert West, le fameux. Donc, il est doublé par Denis Boileau. On a ensuite Bruce Abbott qui joue donc Daniel Kane. Il y a Barbara Crampton qui fait Megan Halsey. David Gale qui fait le docteur Carl Hill. Robert Sampson qui fait Dean Alan Halsey. Jerry Black qui fait Mace. Je ne sais plus qui c'est ça. Caroline Purdy-Gordon qui fait le docteur Harrod et Peter Kent qui fait le réanimé Melvin.
Ouais, bah donc du coup, mais bon, on a que les
ouais, principaux c'est que les
après,
principaux.
Ouais, Jeffrey Combs et Bruce Abbott avec Barbara.
Ah, Mace, c'est pas le gardien là?
Ouais, je pense que c'est le gardien.
Ah ouais, c'est le gardien. Vigile. Ouais, gardien de la morgue. Ouais. De la morgue.
Enfin, le vigile, oui.
Ouais, et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait de beau ces acteurs-là dans leur carrière?
Eh oui, donc Jeffrey Combs, dont je parlais là, donc il est né le 9 septembre 54 à Oxnard en Californie, donc c'est un acteur américain forcément. On peut le voir donc dans Reanimator 2 en 90 aussi, dans Fantôme contre Fantôme en 96, à Fantôme contre Fantôme dedans il y a aussi Michael J. Fox, il est du moyen comme.
Ah, oui.
Je sais pas si vous l'avez vu ce film-là.
Ouais, oui,
il est aussi dans Souviens-toi l'été dernier 2 en 98, La maison de l'horreur en 99, dans Beyond Reanimator en 2003, et puis on peut le voir dans les séries aussi, on peut le voir dans Star Trek Deep Space Nine, dans Star Trek Voyager, dans les 4400, et puis on le voit aussi dans un épisode de Creep Show en 2019.
Ouais, on sent bien qu'il a fait une carrière autour des films d'horreur, quoi.
Ouais. Après, il y a Bruce Abbott, qui est donc un acteur américain né 28 juillet 54 à Portland, donc dans l'Oregon. Lui, j'ai pas trop trouvé de filmo.
Ouais, ils ont fait des petits trucs.
Oui, voilà. Puis hyper, je trouve que c'est pas assez flagrant.
Après, marquant, ouais. Pas trop marquant.
Ouais, voilà. Barbara Crampton, donc née le 27 décembre 58, donc on peut la voir dans Les Vacances de folie en 85, Aux portes de l'au-delà en 86, donc on retrouve qu'on est encore dans un truc d'horreur. Robert Leroy Sampson, donc lui il est né en 33 à Los Angeles, il est mort en janvier 2020 à Santa Barbara. Caroline Purdy-Gordon donc est une actrice née en 47 dans le Michigan. Elle est l'épouse du réalisateur et scénariste Stuart Gordon depuis 68. On peut la voir donc en 86 dans Aux portes de l'au-delà, donc de Stuart Gordon bien sûr, de Dr. Bloch. En 87 dans Les poupées, toujours de Stuart Gordon comme on en parlait tout à l'heure. Elle fait Rosemary Bower. Et puis bon, bah voilà, après Stuart Gordon, je vais redire, on n'avait pas dit qu'il est né en 47 à Chicago. On a juste dit qu'il était mort en 2020 en Californie. On peut donc lui, il est réalisateur aussi de Les Aux Portes de l'Au-delà, mais bon, on l'a dit tout à l'heure, ça. 86, ouais. Et puis Les Poupées, que j'ai bien aimé ce film-là, hein, Les Poupées en 86.
Ah ouais, il est sympa. Ouais, non, mais c'est vrai que quand on regarde au-delà de la filmo qu'ils ont fait avec Stuart Gordon et puis avec d'autres petites réals, mais toujours autour du film d'horreur, ils ont pas trop de filmo qui se tirent du lot, quoi. C'est que des petits trucs de série B voire série Z, quoi, après.
Ouais, c'est un peu dommage.
Il faut dire aussi qu'il n'y a pas grand monde qui croyait au succès des films de Gordon. Mais Gordon, lui, pensait vraiment qu'il y avait possibilité que ces films restent dans l'histoire et que 20 ans après, on en parle encore. Tu vois.
Ouais, bah oui, c'est sûr. Mais bon, faudrait que, pour qu'on en reparle vraiment, il faudrait qu'il soit réédité en Blu-ray. Je pense que ça, ceux qui ne connaissent pas seraient tentés de.
Après, il y a peut-être aussi le fait que ça soit assez théâtral et du coup, les acteurs sont assez vite cadrés dans un tisse particulier de jeu, tu vois.
Ouais. Et puis, je sais même pas si on retrouve facilement sur les plateformes de VOD ces films-là.
Non, c'est compliqué.
Parce que, bon, moi, je l'ai en DVD. Alors, c'est vrai que ça commence à dater, mais la qualité n'est plus... Ouais, enfin, par rapport à ce qui existe maintenant, c'est pas top, mais bon, c'est toujours regardable. Mais je regardais s'il y avait des versions Blu-ray, c'est compliqué.
Non, c'est compliqué. From Beyond, Beyond Reanimator qu'on trouve assez facilement, bah, parce qu'il est de 2003. Mais alors,
oui, parce qu'il est plus récent, ouais, ouais. Bien sûr.
Mais bon, c'est pas un film de Gordon.
Ouais. Non. Et puis, bah ouais, Benoît, il a ses acteurs fétiches quand même.
Ah oui, du coup, on a parlé de Jeffrey Combs. Alors, à noter aussi. Que Jeffrey Combs, c'est la voix de Brainiac dans Injustice 2, donc c'est lui le grand méchant de Injustice 2. Et il joue aussi en 93 dans Necronomicon, qui est une autre adaptation de Lovecraft, qui n'est pas de Stephen Gordon, mais de Brian Yuzna.
Ouais.
Et Brian Yuzna, c'est lui qui a le plus de trucs notables après Barbara Crampton et Jeffrey Combs, qui, du coup, comme le dit Blood, c'est compliqué de trouver autre chose. Que ce qu'on a déjà évoqué sur les films de Gordon pour ces acteurs-là, parce que ils sont surtout contentés à ça. Mais Brian Yuzna, il a produit quasiment tous les films de Gordon. Donc, comme je disais, c'est un petit peu son alter ego. Il est aussi réalisateur, réalisateur et scénariste. Et donc, il a fait beaucoup de SF et surtout d'horreur. C'est lui qui a réalisé Reanimator 2. Il a réalisé aussi Le Dentiste de 96. C'est un film qu'on voyait tout le temps dans les vidéoclubs, ça. Mm-hmm. C'est aussi le réalisateur de Beyond Reanimator.
Ouais.
Il a été scénariste sur From Beyond. Et Chérie, j'ai rétréci les gosses. Donc il a toujours travaillé avec Gordon. Ça fait un petit peu penser au tandem Mancini-Tom Holland. Pour le Chucky. Et du coup, c'est un peu cool quand même de se dire que les suites de Reanimator et tout, ça reste dans les mains des papas de la licence. Enfin, la licence, on peut dire, parce que là, je pense qu'on peut pas trop parler de licence pour ce genre de film, tu vois. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet un peu particulier à évoquer, l'univers, le Stewart Gordon Universe, parce que c'est très restreint en fait, hein. Je veux dire, t'as vraiment l'impression qu'ils ont jamais quitté le côté, un film d'étudiant entre un petit groupe de classe et voilà, tu vois. Donc et c'est ça qui est fort, hein, c'est que finalement les films restent plus que ceux qui l'ont fait, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? Je ne me souviens plus. T'as dit un truc. Le Necronomicon, c'est aussi le bouquin qu'on retrouve dans Evil Dead.
Ouais.
C'est ça. Voilà quoi. C'est. De toute façon, l'ombre de Lovecraft plane sur tous ces trucs-là. Hein. C'est ça. Un peu clair, mais faut le lire aussi, Lovecraft. J'en ai plein. J'ai plein de bouquins de lui, de Cthulhu, toute la saga Cthulhu, tout ça, c'est. Ouais, c'est génial, quoi, mais. Ouais. Et ben, sinon, qu'est-ce qu'on a dans la petite équipe technique, tiens Bah, déjà, qu'est-ce que Réanimator? Parce qu'on ne l'a pas vraiment dit, hein.
Non.
Voilà, c'est l'université d'Akram accueille un nouvel élève en médecine.
D'Arkham.
En la personne d'Herbert West. Celui-ci se met en tête de pouvoir, au travers d'expériences prohibées, redonner vie aux morts. Voilà le thème du film, le pitch. Et le livre, lui, qui s'appelle Herbert West Réanimateur, donc en VO c'est Herbert West Réanimator, est une nouvelle de l'auteur américain Howard Philip Lovecraft qui a été publiée pour la première fois en feuilleton de février à juillet 1922. Dans la revue amateur Homebrew. Voilà. Donc, c'est des petites nouvelles à la base. Et ce film-là, donc, le titre original, le titre français est le même, hein, Réanimator. Au scénario, on a Denis Paoli, William Norris, Stuart Gordon. À la musique, on a Richard Band. À la photographie, on a Mac Alberg. Et voilà, direction artistique, Robert Burns. La production, c'est Brian Yuzna, Michael Avery et Bruce William Curtis. Et voilà, la société de production, c'est Empire Pictures et Réanimateur Production INC. Voilà, le film dure 86 minutes. Et bien, comme toujours, il y avait un petit décalage entre la sortie états-unienne et la sortie française, puisque aux US, il est sorti le 18 octobre 85, et en France, il est sorti le 12 mars 86. Voilà, pour le petit truc au niveau de l'équipe technique. Et puis, tiens, on va s'écouter un deuxième petit extrait. Allez.
C'est facile à comprendre, la vie est un processus chimique et physique, d'accord? Il n'y a donc aucune raison, si l'on peut se procurer des cadavres de quelques spécimens qui viennent de mourir, et si on peut rétablir le processus chimique de leur cerveau, qu'on n'arrive pas à les réanimer.
Cette théorie n'est pas nouvelle, West.
Mon sérum, mon réactif, l'est. Lis.
J'ai réussi avec un sérum de mon invention que je leur ai inoculé à redonner la vie à un certain nombre de lapins, cochons d'Inde, des chats et chiens.
J'ai prolongé leur vie au-delà des 12 minutes. J'ai vaincu la mort cérébrale.
Avec des animaux de plus grande taille, en leur inoculant des doses plus importantes de sérum, leurs réactions sont devenues des plus violentes. Et mes recherches se sont avérées plus difficiles.
C'est pourquoi j'ai besoin de toi pour m'aider.
Pour t'aider?
Oui, tu es la personne la plus qualifiée qui puisse m'aider dans mes travaux. Élève brillant et estimé de tous, et tu as des relations privilégiées avec les hautes autorités. Nous pourrons vaincre la mort. Réactiver le processus chimique du cerveau, nous serons les premiers à avoir réussi l'impossible.
Tu vas pas essayer ça sur des humains?
Eh oui, mais... Eh ben si. Non, et puis le pire, c'est que ça devient une obsession pour lui. C'est une obsession. Il voit la il veut vaincre la mort partout, quoi. Et il provoque en fait notamment avec le chat de.
Clairement là, ouais.
Ouais. Avec le chat de, j'ai oublié, de Daniel.
Non.
Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que
il était tombé dans la poubelle, il n'a pas pu ressortir.
Tu avais mentionné tout à l'heure le fait que ça se passe dans l'université d'Arkham. Mais Arkham, du coup, c'est une ville. C'est une ville imaginaire de Lovecraft.
Oui.
Et qui est à l'origine de l'Arkham, la fameuse prison d'Arkham. Enfin, l'asile d'Arkham. Ouais. De Batman, du coup, c'est une
référence. Batman, ouais.
Oui, parce que c'est le genre de truc, des fois, qu'on oublie. Mais ouais, ouais du non, coup, comment ah. Ce qui est rigolo, c'est que, comment dire, donc c'est 1922, Reanimator de Lovecraft, et ça partage un petit peu les choses que tu peux avoir dans la guerre des mondes aussi, donc des livres qui sont avant 1930, on va dire ça comme ça, où du coup les avancées scientifiques sont assez... assez, comment dire, avancé pour qu'on sache à peu près de quoi on parle, mais la porte aux possibilités reste encore ouverte, tu vois.
Ouais.
Et du coup, c'est assez rigolo parce qu'il y a plein de trucs dans ce film-là qui sont, comment dire, qui sont pas cons du tout. Et même la façon de parler de science, c'est un truc que tu vois un petit peu moins souvent, en fait, dans les films maintenant, où on est un peu plus dans le New Age et tout ça, où la science, ça l'a un peu mal mené, genre, ouais, dans Avengers et tout ça. Et là, notre cher... notre cher professeur West, là, enfin pas professeur, ni docteur d'ailleurs, il n'a encore rien du tout. Herbert West.
Ouais, parce qu'il est encore étudiant, ouais.
Ouais, il est, comment dire, il est très pragmatique dans sa façon de gérer la science. La seule différence, c'est qu'il n'a aucune éthique.
C'est ça. il s'en bat les steaks.
C'est ça. Et donc on se demande à chaque fois comment il arrive à entraîner ce pauvre Dan qui, lui, essaie juste de rendre service à tout le monde et essayer de contenter tout le monde, sauf qu'il n'y arrive pas.
C'est vrai. Un peu flippette aussi, Dan, sur les bords. Mais...
Pourtant, il a des raisons à la fin, quand même.
Ouais, quand même, ouais. Mais ça me fait penser à un autre film aussi. Ah, c'est quoi ce film L'expérience interdite. Où, bah, c'est pareil, tu sais, le côté scientifique de qu'est-ce qui se passe quand on amène des gens aux portes de la mort, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, etc. Voilà quoi. Donc là aussi, on était en pleine théorie scientifique avec ce film-là, quoi. C'était un des thèmes aussi de l'époque, hein. Je crois que l'expérience interdite et Reanimator, c'est un peu dans les mêmes, dans la même décennie.
Donc c'est un peu plus jeune, l'expérience interdite.
J'ai plus l'année en tête.
Il y a Brainstorm aussi, mais je sais plus trop ce que c'était exactement.
90, voilà. L'expérience interdite.
Ah voilà. Ah oui.
C'est 83, Brainstorm. Ouais. C'est réalisé par Douglas Trumbull avec Christopher Walken. Et c'est vrai qu'il est, il est bien ce film-là. C'est pour... En fait, ils avaient un casque et ça permet à l'autre de partager les émotions et les souvenirs. Voilà quoi. Donc, c'est un peu space de ce qui se passe dans la tête, etc. Mais sinon, pour en revenir à Reanimator, bah, on a eu le droit à quelques récompenses, quelques petites nominations. Blood, qu'est-ce qu'on a sur ce film?
Alors, prix du meilleur film lors du Festival international du film de Catalogne en 85. Nomination au prix du meilleur film d'horreur et meilleur maquillage pour Anthony Doublin, John Nolan et John Carl Bulchler lors de l'Académie des films de science-fiction fantastique et horreur en 86. Prix du meilleur film et meilleur effet spéciaux pour Anthony Doublin. Alors, je ne sais pas s'il faut dire Doublin ou Doublin, d'ailleurs. Lors du Fanta Festival en 86 et mention spéciale horreur au Festival international du film fantastique d'Avoria en 86.
Ouais, d'ailleurs, tiens, sur l'affiche, c'était, ouais, c'était ça qui était mentionné. C'était justement qu'il était... au Festival international du film fantastique d'Avoria. Et puis sinon, j'avais vu aussi, mais là je ne l'avais pas noté, mais je m'en rappelle, que les acteurs n'étaient pas au courant que comment Stuart Gordon allait prendre de bon, c'était du faux sang, mais qu'ils allaient en être aspergés et qu'il y en aurait autant que ça. Donc les acteurs au début, ils leur avaient caché ça. Donc ils étaient un peu surpris au début qu'il y ait autant de fausses hémoglobines.
Oui, il y a des scènes comme ça où du coup, comment dire, Jeffrey Combe secoue un bras et tout ça, et un peu dégoûté, mais c'est une vraie dégoût, parce que comme vous savez, il n'est pas fan de films d'horreur, et du coup pour lui c'était un peu dur.
Ouais, un peu dur, ouais. Ouais. Et puis on a aussi un truc qui est marrant, une petite anecdote comme ça. Le premier homme à être réanimé à la morgue, c'est la doublure d'Arnold Schwarzenegger.
Oui.
Dans Terminator. Donc, de toute façon, on peut pas le louper, hein. Le mec, il est assez baraque. Ouais, ouais. Voilà, on a aussi le. Quand on entend vraiment le thème du film, la musique, qui est composée par Charles Band, le thème musical, ça révise un petit peu celui de Psychose du film d'Alfred Hitchcock, qui avait été écrit par Bernard Herrmann. Donc, on retrouve un petit peu des rappels hein, à Psychose. Je ne sais pas si vous avez la musique en tête.
J'ai un petit peu, ouais.
Et voilà, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a aussi? On avait aussi le bah celui l'homme qui est assis à côté de Meghan avec la mâchoire bandée là quand elle veut
ah oui, quand elle attend
avant qu'elle rejoigne ouais. Dan à la morgue
puis elle lui refile son magazine
ouais et ben comment dire.
Et ben il est encore dans la à attendre dans l'hôpital.
C'est le célèbre dessinateur underground et fils du non moins célèbre Jane Deitch. Lui il a fait la BD The Boulevard of Broken Dreams Jane Deitch, lui, il a fait The Cat. Voilà, donc c'était pour la petite anecdote. Ça doit être un petit clin d'œil, je pense. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre Benoît, tu voulais nous parler un petit peu, une petite présentation rapide de Dolls
Ouais, alors... Rapide, parce que du coup, il faudra peut-être qu'on l'évoque un jour dans un autre.
Ouais, il y a tellement de films à faire de toute façon.
C'est ça.
On a fait deux fois de suite un film d'horreur.
On va faire une pause après, hein, quand même. oui, c'est surtout que du coup, pour moi, c'est intéressant de voir les deux, Chucky et Dolls, parce qu'ils ont une vision complètement différente de ce que tu peux faire. Il y a des films de poupées. Ouais. Parce que là où on a l'habitude que dans les films de poupées la poupée soit centrale, et ben ça l'est pas forcément dans Dolls. T'as tout un environnement qui est lié aux poupées et ça ressemble un petit peu à moi, je sais pas si vous l'avez vu ça, à Cat Size, une adaptation de Stephen King.
Ah, c'est... pas le manga.
non, rien à voir avec un chat.
Attends, je vois le chat dans le cimetière.
Non, pas cimetière, Cat Size. Ouais, c'est très obscur. Hein, ça...
Ouais, bah ça me dit rien du tout.
Ça me dit rien, parce que dans le cimetière, il y a justement le premier à revenir à la vie, c'est le chat.
Oui.
Et là, Cat Size, non, ça me dit rien du tout. Et c'est un truc de Stephen King, ok.
Ouais, attends, je vais essayer de te retrouver. Je crois même que c'est réalisé par Stephen King. C'est 85 aussi, tiens.
D'accord. Bah écoute, j'ai dû le louper. Pourtant, je suis fan de Stephen King.
Réalisé par Lewis Tigueux. En 85, et donc c'est un film à sketch, donc il n'y a pas que... Il y a plusieurs petits films. Et ouais, c'est vraiment un truc très 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 bizarre.
Film à sketch, on est dans les trucs un peu à la hamburger film sandwich, ou les trucs comme ça, quoi.
Bah, même à la Crip Show, hein.
Ouais.
Et ouais, celui-là, je pense que... Parce que du coup, en fait, t'as tout un truc avec un espèce de gobelin, et en fait, je suis sûr que si je vous montre l'affiche, ça va vous parler tout de suite.
Attends, on va aller trouver ça.
Attends, si je te mets ça là.
Sorti de son contexte, si je te mets ça là.
Non, je l'ai l'affiche là. Ouais, je vois le chat comme ça. Ça ne dit rien du tout. Film à sketch. Ok, il y a trois sketchs apparemment. Premier sketch, désintoxine, c'est. Deuxième sketch, la corniche. Troisième sketch, le général. Ok.
Voilà, et du coup, Dolls, il me fait vachement plus penser à ça qu'à Chucky.
D'accord.
Pareil, c'est un truc... dans Dolls, c'est assez kitschouille, parce que, pareil, t'as pas d'effet... c'est que des effets pratiques. Et, ouais. Mais ça, pour moi, pour les films de poupées, c'est presque obligatoire, quoi. Tu vois, c'est... Tu peux pas rendre ce petit truc un peu cringe. Si t'as pas ce côté-là, quoi. la démarche et tout, le côté jouet vraiment manipulé. Hein. Et finalement, je pense que c'est aussi ça qui joue beaucoup sur le succès de l'incarnation des poupées. C'est que, c'est que justement, enfin, vu que c'est du stop motion souvent, et que c'est, enfin, ou pour Chucky, de l'animatronics, mais quand c'est du stop motion, et bah, c'est vraiment quelqu'un qui déplace les poupées.
Ah oui.
Donc t'as quand même ce sentiment qu'il y a un truc qui... Et surtout que sur des films comme ça, qui n'avaient pas des gros budgets, enfin c'est pas du, comment dire, de Chicken Run ou ce genre de truc, où là, le stop motion, c'est un niveau...
Ah bah oui, ou Shaun le mouton, un truc comme ça.
Ouais, voilà, où là c'est du grand art, mais je veux dire, où là, enfin...
Ou alors c'est Gromit et tout ça.
C'est ça, là c'est... Enfin, tu fais même plus la différence, mais...
Ah non, c'est du haut niveau, les mecs ils mettent 3 ans à filmer un film.
Et donc voilà, donc pareil, le petit... Le petit, enfin les poupées, c'est toujours Brian Yuzna à la production, Stewart Gordon à la réalisation, et au scénario par contre ce n'est pas lui, c'est Ed Naha, mais voilà, enfin c'est un film à voir. Et en plus le format des poupées est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, elles sont beaucoup plus petites que ce qu'on voit habituellement dans les films de poupées.
Ouais, elles doivent faire une trentaine de centimètres.
60 pour la plus grande. 60 centimètres. Ouais. Donc ce qui n'est pas très grand, hein, on est plus proche du G.I. Joe que de Megan.
Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Mais donc... tu vois, c'est vrai que ces films-là sont tombés un petit peu dans l'oubli du fait que déjà, bah, dans les plateformes de VOD, t'as du mal à les retrouver. Ils n'ont pas été réédités depuis leur sortie DVD il y a 20 ans. Même 25, ça n'a pas été refait. J'ai l'impression qu'ils tombent un peu dans l'oubli, ce genre de film-là, alors que quand ils sont sortis, c'était. Ouais, voilà, dans la. Enfin...
Ouais, il y a aussi peut-être le fait que, bah, par exemple, tu vois, quand Stewart Gordon est mort, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des séances de ciné spéciales ou des soirées spéciales télé où ils repassaient des films. De Stewart Gordon, parce que c'est un peu plus compliqué à montrer, parce que même un Carpenter ou un Wes Craven, c'est plus facile. Bon, c'est vrai, Carpenter, t'as encore envie, mais Wes Craven, tu vois, tu peux passer un Scream sans trop de problèmes, le Freddy un peu moins, mais tu peux, quoi, même un Red Eyes ou ce genre de film, tu vois, c'est facile. À Stewart Gordon, c'est un peu plus chaud.
Ouais, mais bon, je me rappelle, moi, dans la cour d'école, tout le monde avait vu Reanimator. Tout le monde parlait de ça, quoi. Donc, il y a eu vraiment son succès à l'époque. Mais maintenant, c'est un peu tombé dans l'oubli, ce genre de film.
Ouais, mais c'était vraiment les trucs, genre les mad movies ou machin, que tu voyais les images de ce genre de film, c'était pas dans les...
ouais, d'accord.
Mais c'est vrai qu'en plus, Lovecraft, c'est difficile de trouver vraiment des œuvres adaptées de Lovecraft aujourd'hui, tu vois. Parce que je sais pas si vous avez vu Color of... Out of the... Of self, ah c'est dur à prononcer. Hein. Color Out of Space de Richard Stanley. C'est un film Amazon Prime, je crois, avec Nicolas Cage.
Non, je ne l'ai pas vu. Non, je crois que ça ne me dit rien.
Et bah, ce film-là est une pure adaptation Lovecraft, tu vois. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. Enfin, après, le film, il y a le film en lui-même, hein, pas que le, pas que le fait que ça soit du Lovecraft. Hein. Mais c'est un univers très très particulier.
Bah déjà quand tu lis les bouquins c'est un peu bizarre hein.
Ouais, et alors j'ai aussi un jeu qui s'appelle Horror Arkham, un jeu de plateau qui est dans l'univers de Lovecraft. Ça marche mieux en jeu de plateau qu'en film peut-être, mais parce que c'est un peu difficile aujourd'hui de montrer cet univers un peu fantasmagorique, parce que bah on attend un film d'horreur qui fasse peur ou que ce soit gore, pas forcément que ça soit esthétique. Et que ça soit forcément, j'allais dire lent, mais pas forcément lent dans le sens le truc prend son temps. Mais je sais pas comment expliquer ça, parce que maintenant, le film d'horreur, il prend un peu des tournants un peu spécifiques. On commence à parler de d'Elevity d'horreur, là, pour parler de films d'horreur d'auteur, tu vois. Genre quand on évoque les Midsommar et tout ça. Et pour faire la différence avec tous les trucs sortis à la chaîne de Blumhouse, genre les... comment dire Il y a Annabelle 3, 4, 12, 28, ce que tu veux, tout genre de
ouais,
trucs.
Ouais, souviens-toi les derniers 36.
C'est ça, tous les trucs un petit peu à la chaîne, comme ça. Parce que, du coup, on oublie que l'horreur et le gore, enfin, il y a une place un peu spécifique pour des œuvres qui sont... qui utilisent ce truc-là plus pour une esthétique. En fait, je pense que c'est un petit peu... on rapproche ça souvent de l'horreur, mais on devrait plus rapprocher ça du sadomasochisme, tu vois. Dans le mode où c'est vrai, enfin dans le genre où c'est vraiment une communauté qui a ses codes et qui a ses règles et que tant que t'es à l'extérieur, tu vois que des trucs comme ça et que tu comprends pas.
C'est ce que j'allais te dire, c'est ce que j'allais te dire que de toute façon que les codes des films d'horreur ont changé en 35 ans, 40 ans. Les codes des films d'horreur ont changé, donc je pense que ça y fait aussi. Hein.
Ouais, et puis enfin, c'est vraiment des trucs très particuliers. Hein, on parle de films qui sont vraiment particuliers. Ouais, c'est entre le théâtre, le kitsch, le gore. Mais pour moi, un Reanimator, ça ressemble plus limite à un Hellraiser qu'un film d'horreur, un Jason ou un Vampire.
Ouais. Tout ça, c'était un peu dans le même. C'est sorti à la même époque. Il y avait aussi Fantasme aussi, qui était. Tu vois, tous ces films d'horreur là, c'était des films d'horreur quoi. C'était les nouveaux trucs qui arrivaient justement, avec tous les Vendredis 13, Massacre à la contre-sonneuse, les Griffes de la nuit. Il y avait Chucky, Reanimator, tout ça. C'est sorti dans la même, dans les mêmes années. Donc c'était ce move là quoi. Et c'est vrai qu'après. Après qu'il soit sorti, il y a eu quelques suites, même beaucoup, beaucoup de suites pour certains films. Et puis maintenant, c'est une page s'est tournée, quoi. C'est plus le genre qu'on fait, c'est plus le genre qui attire, je sais pas. Est-ce que c'est l'offre et la demande, tu vois? Est-ce que c'est le public qui ne demande pas ça, ou est-ce que c'est les réalisateurs qui ne veulent plus aller sur cette voie-là, je sais pas,
c'est difficile en fait. Peut-être que du coup aussi le fait que maintenant on puisse avoir des très gros budgets pour des films d'horreur, c'est peut-être pas forcément une bonne chose, tu vois.
Ouais,
parce que on met moins de trucs sur sur raconter une histoire et avoir un truc. Parce qu'en plus, le truc rigolo, hein, mais que tu regardes les films de Gordon, c'est des films assez courts, hein. Genre c'est 1h30 grand max,
c'est ça,
vois.
Ouais, 1h20.
Et ça a quand même le temps d'être posé, mais du coup, il se passe plein de choses, en fait.
Bah oui, parce que regarde, tu prends Reanimator 86 minutes, donc t'enlèves le générique. On doit être dans les 80 minutes, ça fait 1h20. Hein.
Ouais.
Voilà, quoi. Donc, oui, c'était assez court.
Ouais, heureusement.
Mais justement, toi déjà, je te laisse la parole, Benoît, et après, ça sera Blood qui en parlera. Toi, Reanimator, toi, c'est... Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a moins plu? Qu'est-ce que tu tires de ce film-là? Quels sont tes meilleurs souvenirs, etc.
Alors, déjà...
Après, ça sera Blood.
Un des premiers points, c'est que c'est compliqué de le voir en VO. Donc, on peut pas juger de certains trucs, surtout les jeux d'acteurs, savoir si c'est uniquement lié à la VO ou à la VF. J'avais pas forcément ce film-là dans mon souvenir. Enfin, peut-être que j'ai été plus marqué Reanimator 2, qui est quand même, c'est l'overdose, hein, dans Reanimator 2. Il y en a partout.
Bah,
hein.
Tu sens que l'un avait bien pris, là il s'est lâché.
Ouais, voilà. Et du coup, j'en avais pas forcément exactement ce souvenir-là. C'était un peu bizarre le visionnage, parce que c'est un film assez ancré dans son époque. Mais c'est rythmé, je m'attendais à un truc des fois un peu plus lent. Je me rappelais pas forcément de toutes ces... ou alors je faisais pas gaffe à toutes ces histoires avec avec le comment dire, le professeur qui est quand même un violeur, hein.
Ouais.
Simplement.
C'est vrai qu'il fantasme sur la fille de son boss.
C'est ça, et c'est vrai que du coup, on a d'autres regards sur les films quand tu connais un peu plus de contexte et tout, et quand tu vois que le pauvre Dan, qui a quand même tout pour être le gendre idéal, il est refusé et tout parce qu'il est, quand, il est toujours pas assez bien pour les, bah pour ouais, les parents puis... de famille hyper catho, enfin ou hyper ouais. J'ai l'air catho, pas forcément, ils sont plutôt protestants des fois aux États-Unis, enfin, en tout cas oui. Hyper religieux et tout ça. Et la fille qui essaye absolument de comment dire, enfin elle a pas de vie elle en fait, tu vois, elle fait tout pour son copain ou pour son père en fait, et elle se pose pas les questions pour elle. Mais c'est rigolo que du coup, t'as quand même des personnages comme ça qui essaient de s'émanciper dans un film de 85. Le fait aussi que bah, finalement, quand tu regardes bien le film, ça tourne plus entre une rivalité entre le prof et son élève, parce que le fait que le prof devienne l'antagoniste, c'est aussi parce que bah, malgré toutes les tentatives de Herbert pour le rabaisser, bah, ça reste quand même quelqu'un qui a lui aussi un bagage scientifique. Il a fait aussi ses propres expériences et du coup, lui, si Herbert arrive à ressusciter des morts, lui, il arrive à les contrôler. Et ça, Herbert n'avait pas prévu.
Oui, bah oui.
Et du coup, voilà, c'est assez mitigé comme sentiment de savoir est-ce que t'aimes le film ou tu ne l'aimes pas. Tu vois, c'est. Je sais pas, ce genre de film, en tout cas, je pense qu'il ne te laisse pas indifférent. Mais des fois, c'est un peu difficile de te mettre une barrière en disant, tu vois, enfin, en te mettant un petit truc, un petit curseur en te disant, il est placé où, tu vois.
Et toi, Blood, tu me disais en off avant qu'on enregistre que.
Ouais.
Tu l'as regardé en plusieurs fois.
Ouais, en 4-5 fois, ouais, parce qu'il y avait des quand il y avait des scènes que je trouvais un peu trop crates, si on peut dire ça comme ça, vu l'année, ça aurait été peut-être avec les graphismes de maintenant, peut-être que ça passerait mieux. Hein. Alors, et pourtant, par exemple, avec Braindead, ça me pose pas de problème. Hein, quand il y a l'autre qui prenait la tondeuse, puis qui arrive à temps sur l'autre, tu t'en souviens?
Avec sa tondeuse. Il prend la tondeuse et il court dans le zombie.
Voilà, ça va nickel. Là. Mais là, oui, quand il mord les doigts, puis qu'il y a le sang qui recoule de la bouche, là, ou puis après, l'autre passage, quand il prend la tête du mec qui lui a coupé, comme il lui a coupé la tête avec la pelle. Ouais. Alors déjà, ce que je trouve un peu. Il aurait dû avoir un peu de sang hein, sur la pelle quand même quand il lui coupe la tête. Ah mais après je trouve que il lui met la tête sur le pic et puis comme il bouge encore un peu il a ouais, mais c'est la dernière scène que j'ai regardée.
Ah t'as pas été jusqu'au bout?
Non.
Ah oui d'accord. Ah oui non mais ouais comme quoi bah il quelque part il a fait un bon film d'horreur Stuart Gordon qui quand tu peux à un moment donné que tu dis non j'arrête c'est plus possible.
Ouais parce que ouais voilà ça c'est trop.
C'est peut-être parce que c'est dans un contexte médical, en fait.
C'était le... Et même dans la morgue aussi, il y a des scènes, c'est un peu spécial. Hein.
Ouais, c'est vrai qu'il est un peu... ça fait un peu...
Justement, là, Combs, là, qui dit à l'autre, qui dit souvent à chaque fois Daniel, le temps, tu sais, quand il est avec son dictaphone.
Oui.
Mais il a gagné... Ouais. Du fait que le dictaphone, il enregistre dès que lui il dit 30 secondes, bah c'est bon, on doit l'entendre dans le dictaphone. Pour l'autre, il n'a pas besoin de répéter.
Ouais, peut-être.
Ouais. Ah bon.
Ouais, c'est quand il a fait l'injection, il veut savoir en combien de temps les morts reprennent vie. Ouais.
Le temps que l'autre regarde ou qu'il le dise, bah c'est il manque 2 secondes à peu près le temps qu'il.
Ouais. Alors bon. C'est vrai que, alors moi le... Dans le film, c'est vrai qu'il y avait, ce qu'on disait au début, hein, le côté un peu exaspérant de West, parce que c'est le mec, il se croit tout permis et voilà quoi. Des fois, t'as envie de lui en coller une. Et t'as de l'autre côté, t'as Dan qui est des fois tout mou. Là, je vois la première scène où normalement il est tout bible, le gars. Donc Il réanime par un massage cardiaque une patiente qui décède. Et après, on voit qu'il est tout retourné. Et bon, après, on se dit, il va s'en remettre. Et plus le film avance, plus on voit que c'est un toubib qui a du mal à supporter, du coup, les décès.
Oui, c'est justement comme brancardier.
Quoi. Ouais, voilà. Donc, du coup, des fois, t'as envie de le secouer un peu en disant, hey, oh, gars, t'es dans le monde médical, quoi. Donc, vas-y, quoi.
Bah, ça te rappelle toutes les tous tes copains d'école qui devaient être docteurs ou vétérinaires parce qu'ils adoraient les animaux. Tu fais, mais tu sais que ça va être surtout ramasser des chats morts et piquer des dents. Tu vois, les disséquer, enfin, tu vois, les ouvrir.
C'est sûr que.
C'est pas mon petit poney, quoi.
Bah non, le mec qui veut faire chirurgien, c'est sûr que. Surtout que toutes les, genre, les opérations à cœur ouvert et tout ça, machin, où tu sors tout, bah, faut les avoir bien accrochés, je pense, hein, quand tu fais ce métier. Non, mais c'est déjà une vocation, donc les mecs, voilà. Et... mais je pense quand même que tu. Ça doit. C'est pas anodin, quoi, de faire ça. Mais après, ouais, les effets spéciaux et tout ça. Bon, c'est les effets spéciaux de l'époque. Mais je trouvais ça marrant, et c'est bien foutu. Bon, des fois, tu vois que le gars qui a pas de tête, tu vois qu'ils lui ont rajouté un costume, en fait. Le gars, il fait 2m20 de haut. Ça se voit trop, mais bon, c'est marrant, c'est le petit côté marrant. Et ouais, effectivement, il doit y avoir plusieurs faux raccords. À un moment donné, comme tu disais, le coup de l'appel où il a décapité le mec avec, il n'y a pas de sang dessus. Et je crois que à un moment donné, la fiole où il a fait je sais pas combien d'injections dans le cerveau directement, d'un seul coup, il reprend sa fiole et elle est pratiquement pleine. Alors qu'il a déjà fait deux grosses seringues qui sont, j'en sais rien, grosses comme je sais pas quoi, grosses comme une canette, non peut-être pas, mais bon. Et le flacon est plein quand il le reprend, donc ouais, il y a des petits trucs comme ça, mais bon, après c'est vrai que ça se laisse regarder. À la fin, ça part plus à la comment dire, ouais, le l'armée de zombies zombies morts-vivants, ouais, et puis à la fin tu vois bien que personne va s'en sortir.
Le père, il est mal en point après, hein.
ouais, et puis tu vois que le comment dire, Carl Hill, tu vois bien que derrière il a un côté un peu pervers, satirique, voilà, et il fait des lobotomies à tout va pour pouvoir essayer de contrôler tous ceux qu'il a réussi à réanimer. Et
ce qui m'a fait un peu sourire quand même, c'est quand il repart avec sa tête sous le bras.
Ouais, non mais ouais. C'est... Et puis genre, tu sais, il se fout de lui-même parce que des fois, comme il a la tête séparée du corps, quand son corps n'arrive pas à faire ce qu'il fait, qu'il veut faire, tu le vois, il fait genre, il lève les yeux, genre,
il est con.
Ouais, donc bon.
Finalement, mais, c'est un truc qui n'a pas de sens quand tu comprends le, enfin quand tu regardes le pitch du film, tu vois.
Ouais, bah oui.
Parce qu'il dit c'est de l'injection et puis c'est un truc chimique et compagnie, mais le corps il est pas lié à la tête et du coup comment ça marche, tu vois.
C'est ça.
Le corps, il peut pas vivre tout seul, c'est pas possible.
Ouais, et puis alors qu'il y a eu des injections aussi dans le corps, alors qu'à la base tu les fais dans le cerveau. Bon, ouais.
Ouais, puis quand il met un peu de sang pour que sa tête aille mieux, c'est un peu louche, ça, non?
Ouais, comme s'il y avait une circulation sanguine qui se fait sans le cœur, ouais. Mais bon, après, ouais, voilà, c'était pour le scénario, pour voir avancer, quoi. Oui, voilà aussi. Donc. Mais ouais, et puis à la fin, tu vois bien que bah, c'est pas trop comment ça finit. T'as voilà quoi.
Bah, tu vois que Dan, il a du mal à accepter la mort et pourtant il connaît les conséquences de machin, mais tu sais, tu te sens qu'il va quand même y aller, hein.
Ouais, ouais, oui. Tu as l'impression que même il va prendre pas prendre goût, mais il va prendre le relais de West, quoi. Mm. La façon dont ça se termine. Bah, c'est pour ça qu'après qu'ils ont fait le 2 aussi, hein, peut-être qu'il avait des
ouais, mais du coup, le 2, ils reprennent West, parce que bah, forcément, un personnage comme ça, tu peux pas le lâcher. Du coup, ils ont continué avec West.
Alors qu'à la fin, normalement, West, tu dis, bah, c'est fini pour lui.
Ah, on n'est pas sûr.
Mais on sait pas, bah, justement, c'est ça que je dis. On sait pas. La façon dont ça finit, c'est pas. On sait pas. Et pareil pour Megan, bah, tu sais pas. Mais ouais, voilà, bon, c'est un bon film d'horreur ouais, des années 80. Et c'est un truc qu'on peut pas passer à côté. Si on aime les films d'horreur, il faut l'avoir vu. Il faut le regarder.
Oui, puis ça aide peut-être à comprendre un peu plus From Beyond ou ce genre de truc derrière.
Oui, ouais, bah, voilà, tous les films dont on a parlé là dans cet épisode, faut les voir. Faut les voir. Si on aime les films d'horreur, faut les voir. Ah, c'est clair.
Même Chérie, j'arrêterai si les gosses. Hein.
Oui, ouais, c'est marrant.
Ah bah c'était quelque chose hein, quand c'est sorti. Hein.
Oui. Ouais, ouais, ouais. Ah bah ouais. Ouais. Ça.
Par contre, le film d'horreur, c'est Chérie, j'ai agrandi le bébé. Là, oui, c'était moins top celui-là.
Ah oui, c'était spécial.
Ouais. Bah voilà, moi j'ai rien à rajouter. Vous de votre côté?
Non, en même temps, c'est compliqué de faire plus sur ce genre de film.
Ouais, non. Et puis.
J'essaierai de le regarder jusqu'au bout quand même.
Ouais. Et puis, ouais, j'ai pas trop trouvé non plus d'anecdotes autour du film. Il n'y a pas eu de. À part les trucs de sang, là. Où les acteurs n'étaient pas au courant. Des trucs comme ça, mais. Voilà, j'ai pas vraiment trouvé de. D'autres trucs à raconter. Mais bon, bah, c'est pas grave. Au moins, on aura parlé d'un film dont il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Voilà. Ce film-là. Réanimateur. Ok, bah écoutez. On va se quitter là-dessus. Et puis, je vais mettre le générique intégral de fin, comme ça, avec la petite musique sympatoche qui rappelle aussi Psychose. Bah messieurs, merci à vous, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, et puis bah on donne rendez-vous au prochain numéro. Mmh. On vous embrasse très fort et puis on vous dit à bientôt, ciao ciao.
Salut et bon film.
Yes. Thank you.